Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, ces versets, depuis que nous les lisons, nous commençons quand même à bien les connaître, et pourtant, peut-être avez-vous été intrigué par une toute petite phrase qui se glisse dans ce passage et porteuse d'une certaine négativité. Elle se trouve au verset 17. Le verset 17 qui nous dit « Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. » Et la voici donc, cette fameuse petite phrase que j'ai qualifiée de négative, mais quelques-uns eurent des doutes. Des doutes. Quels doutes ? Des doutes sur quoi ? Des doutes à quel sujet ? J'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Il y en a même probablement pas mal. Le texte ne nous dit pas combien des disciples doutèrent, ni à quel sujet. De toute façon, il n'était là que 11. Et déjà, tous ne semblent pas avoir douté, ou du moins laisser apparaître leurs doutes. Mais il nous est tout de même permis d'évoquer quelques hypothèses. Un tel peut avoir douté de la résurrection de Jésus. Si on considère le seul évangile de Matthieu, celui duquel nous tirons notre texte, c'est une possibilité. Cependant, la lecture des autres évangiles nous apprend que les 11 disciples ont déjà été confrontés, avant cet instant, à l'apparition de Jésus ressuscité. Mais il n'est pas impossible que ce doute revienne et persiste dans l'esprit de tel ou tel. Ne nous reconnaîtrions-nous pas parfois dans cette attitude de remise en question de choses que, pourtant, nous avions reçues, reconnues comme véridiques. Un autre peut avoir douté d'être là en présence de Jésus, du vrai Jésus, celui qu'ils ont côtoyé pendant 3 ans. Que nous lisons dans les apparitions de Jésus, du Jésus ressuscité, nous donne à penser qu'il ressemblait très peu physiquement à celui qu'ils avaient connu avant sa crucifixion. Il semble que seules les traces des clous dans les mains et de la lance dans son côté soit ce qui reste de son corps d'avant. Et c'est d'ailleurs là, cela, qui convainc Thomas. Thomas, l'apôtre qui incarne le doute par excellence. Un doute qui ne cède que face aux preuves concrètes, aux preuves matérielles. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. L'évangile de Jean nous apprend que Thomas est même resté 8 jours à persister dans son incrédulité alors que les témoignages se multipliaient 8 jours avant que Jésus lui fasse cette grâce de lui faire toucher du doigt, et c'est bien le cas de le dire, les preuves de son identité et de sa résurrection. Et il faut tout de même reconnaître chez Thomas une attitude de sincérité, d'authenticité, et rien ne permet de nous dire que là, c'est encore lui qui se singularise une nouvelle fois par ses doutes. Et d'ailleurs, il n'est même pas dit comment ces doutes sont exprimés, ni même s'ils ont été exprimés, simplement, quelques-uns eurent des doutes. Un troisième peut avoir douté de tout et de tous, des autres comme de lui-même, au point de se demander, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici au milieu de cette bande illuminée alors que je pourrais être tranquillement en train de lire mon journal dans mon canapé avec ma femme et mes enfants? Et j'imagine que chacun d'entre nous trouvera ici une multitude d'autres sujets de doute, en particulier ceux auxquels lui-même se trouve confronté au quotidien ou se trouverait confronté en de telles circonstances. Mais quand même, il y a une bonne nouvelle. Personne n'a douté de Dieu. Personne parmi les disciples et personne parmi nous, bien sûr, évidemment, en une seule seconde, ne doute de Dieu. Grand Dieu, non, surtout pas ça. Douter de Dieu, c'est bien la dernière chose à laquelle nous pensons, c'est bien la dernière chose qui nous pendonnait, n'est-ce pas? Nous pouvons douter de tout, de l'Église, de sa mission, de son organisation, de son enseignement, de ceux qui la composent, de nous-mêmes, de notre salut, de nos dons, de notre foi. Nous pouvons douter, sous le poids des circonstances sociologiques, politiques. Et Dieu sait que la politique actuelle, aussi bien française qu'internationale, nous donne des occasions de douter, de nourrir des doutes sur l'avenir de nous-mêmes, de nos enfants, de nos églises. Mais douter de Dieu, non, jamais. Il y a quelques jours, je me suis trouvé dans un avion lors d'un atterrissage sans visibilité, dans le brouillard. Et là, de ma place en cabine, je me suis projeté dans le cockpit en pensée, en essayant d'imaginer la tension qui pouvait y régner. Mais une vidéo, Elliot, vaut mieux qu'un long discours. Alors, ce ne sont pas mes images, hein. Ce sont des images que j'ai trouvées sur YouTube. Et je dois vous avouer que les conditions dans lesquelles je me suis trouvé étaient encore loin d'être comme celle-ci. En plus, c'était en plein jour. Mais quand même, quand à 200 mètres, à 100 mètres du sol et 300 km/h, vous ne voyez toujours pas le sol, imaginez que ça doit être stressant. J'imagine le soulagement de l'équipage quand la piste apparaît enfin sous ses yeux, qu'elle est là, droit devant, bien dans l'axe, libre. Que rien ne l'encombre. Mais imaginez que le commandant de bord, Édouard, tiens, on va l'appeler Édouard, puisque c'est un nom qui plaît à Michael, que le commandant de bord se laisse envahir par le doute. D'abord, tous ces instruments qui indiquent que tout est en ordre, pas de voyant rouge, mais est-ce qu'il fonctionne bien? Qui sait si une sonde Pitot n'a pas gelé, comme ça s'est passé dans le vol Paris-Rio. Ça arrive, la preuve. En fin de compte, rien d'autre que ces instruments ultra-sensibles ne prouvent que nous sommes bien dans l'axe de la piste. Et en parlant de la piste, justement, est-ce qu'elle est libre? Cette piste que même les contrôleurs au sol, depuis leur tour de contrôle, ne peuvent pas voir de leurs yeux, tant le brouillard est épais. Vous l'avez vu, cette traversée des nuages est hyper longue. C'est très très long, c'est interminable. Et avec en plus cette voie automatique qui égrène la distance avec le sol, comme ça, alors qu'elle diminue inexorablement, vous en conviendrez, ce n'est pas exactement le moment idéal pour être gagné par le doute. C'est un coup pour en oublier de sortir le terrain d'atterrissage ou d'ajuster la vitesse et de provoquer une situation qui ne ça n'imposait pas, qu'il ne se présentait pas à une situation critique dans un contexte bien sûr difficile, mais a priori connu et maîtrisé. Et quand bien même le voyant rouge s'allumerait, c'est bien en prévision de situations comme celle-ci que sont prévus les manuels de bord et les longues heures passées dans des simulateurs. Ce sont des outils qui permettent de traiter des telles situations d'urgence, mais qui sont élaborés sur la base d'expériences et de réflexions qui se sont posées hors situation d'urgence, justement. Je dis cela pour faire un parallèle entre les instruments et manuels de bord avec la parole de Dieu comme guide éprouvé sur lequel nous pouvons nous appuyer, bien sûr au quotidien, et c'est ce que nous encourageons toujours à faire, mais aussi à recourir à plus forte raison lorsque notre vision des choses semble s'obscurcir. Et enfin, quoi qu'il en soit, doute ou pas, qu'on le redoute ou non, il va bien falloir se poser. On ne peut pas rester tourné en rond dans les nuages jusqu'à ce que le brouillard se dissipe. Ben moi, je remarque une chose dans notre texte, c'est que cette fois, Jésus ne s'attarde plus sur le doute des disciples. Il l'a fait avec Thomas, nous l'avons dit. Il a pris le temps de s'attarder sur le doute de Thomas. Dans l'évangile de Luc, nous lisons qu'il prend encore le temps de leur expliquer les choses qu'il leur avait déjà annoncées auparavant et qu'ils n'avaient pas comprises, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait, que la repentance et le pardon seraient prêchés à toutes les nations en son nom. Mais là, non. Là, maintenant, il va retourner vers son Père et l'heure n'est plus à s'attarder sur les doutes qui persisteraient encore. Déjà, sa première phrase coupe court à toute tergiversation. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça doit leur suffire. Ça doit nous suffire. Il faut être cohérent. On ne peut pas adorer Jésus comme nous voyons qu'ils le font et comme nous le faisons, et dans le même temps douter de sa divinité, de sa résurrection, ou que sais-je encore. Ensuite, et désormais, l'heure est à l'envoi. « Allez !» leur dit-il. « Allez !» Et vous connaissez la suite. Nos doutes, même non dissipés, et rien ne permet de penser qu'ils le sont effectivement totalement dans l'esprit de tous les disciples, nos doutes n'empêchent pas Jésus de nous envoyer en mission. Arrivé à ce stade, l'important est moins peut-être de combattre nos doutes que d'entrer dans un chemin d'obéissance à Jésus-Christ. Nous engager sur ce chemin, marcher à sa suite et faire l'expérience de sa fidélité sera de loin l'arme la plus efficace contre le doute, bien plus sans doute que les longues heures passées à se forger une conviction qu'un nouveau doute viendra immanquablement balayer. Ce sujet que nous évoquons ce matin, celui du doute, ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai à cœur, 2 semaines environ. Et néanmoins, cette semaine, j'ai douté de beaucoup de choses. J'ai douté de ce que Dieu attend de moi dans l'Église, dans mon groupe de maison. J'ai même douté de ma dignité d'être appelé enfant de Dieu. Mais rassurez-vous, je n'ai jamais douté de Dieu. Pas une seconde, bien entendu, je n'ai douté de Dieu. Non, pas ça, pas moi. Je m'en défends avec la dernière énergie. Douter de Dieu, loin de moi, une telle pensée. Est-ce que j'ai aussi compris que cette semaine, c'est que douter sur ce en quoi Dieu nous demande de croire, c'est douter de Dieu. Je n'étais évidemment pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Et cependant, je le suis parce que Dieu m'a adopté comme son enfant. Voyez combien le Père nous a aimés, nous dit Jean, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, nous dit-il. Dieu nous demande de croire cela, de croire en cela, et en douter, c'est douter de Dieu. Dieu, douter de ce que Dieu nous appelle et nous envoie personnellement auprès de nos prochains pour en faire des disciples, c'est douter de Dieu. Parce que cette mission qui nous est confiée est une mission universelle. C'est la mission de toute l'Église, et pas seulement celle que s'est fixée l'Église évangélique baptiste de Clermont-Ferrand. Dans tous nos projets, personnels, familiaux, professionnels, scolaires, si nous voulons les vivre avec le Seigneur, et peut-être précisément parce que nous voulons les vivre avec le Seigneur, nous nous trouverons tôt ou tard aux prises avec le doute. Et il en sera de même dans notre projet d'église, dans notre projet bâtiment, et tout ce qui touchera, tout ce qui y touchera de près ou de loin. Soyons assurés, sans l'ombre d'un doute, que les occasions de douter ne manqueront pas. Elles ne manqueront pas d'arriver tout au long de son déroulement. Et quand j'ai écrit ceci, je ne croyais pas si bien dire. Quand bien même rien ne viendrait contrecarrer nos plans, n'ayons plus de doute sur le fait que notre patience, notre persévérance seront mises à l'épreuve, parce que ce sont toutes les deux, la patience et la persévérance, des marqueurs de la foi. La foi, sans la patience, ce n'est pas de la foi. La foi, sans la persévérance, ce n'est pas de la foi. Tout juste, pourrions-nous le qualifier d'un élan passager, un élan qui aura besoin de résultats pour se nourrir et s'entretenir. Mais voici ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et je vous y invite au chapitre 10. Versets 35 et 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. À partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous avons besoin de persévérance, nous dit l'auteur de cette épître. Pourquoi ? Pour que notre désir, nous dit-il, notre désir d'accomplir la volonté de Dieu soit éprouvé avant que ne viennent les résultats promis, pour qu'il soit manifeste que notre foi est ferme et fondée. Il ne fait donc pas de doute, et nous pouvons nous y préparer, que Dieu éprouvera notre foi en faisant appel à notre patience et à notre persévérance. Mais une foi assurée ne craint pas l'épreuve de la patience et de la persévérance. Elle s'y soumet volontiers, tout comme un étudiant qui a bien potassé ses cours se soumet volontiers à l'épreuve de l'examen qui consacrera son travail. La fameuse définition de la foi que nous trouvons quelques versets plus loin, au chapitre 11, qualifie la foi de certitude, d'assurance à propos de choses qu'on espère, de réalité, de démonstration à propos de choses qu'on ne voit pas encore. Et donc les choses pour lesquelles le disciple de Jésus travaille sont déjà une réalité dans son esprit. Il les prend comme acquises, alors même qu'elles ne sont pas encore visibles dans les faits. Je repense à cet instant où les disciples se trouvent dans une barque au milieu d'une tempête avec Jésus. Et ce passage est raconté dans 3 des 4 évangiles, mais j'ai choisi celui de l'évangile de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 35. Ce jour même, le soir, Jésus leur dit aux disciples, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans une barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu donc pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Les disciples sont terrifiés, ils craignent même pour leur vie, Pourtant, Jésus est là. On ne peut pas lui reprocher de ne pas être là. Mais il dort. Et quand enfin, il daigne prendre la crainte des disciples au sérieux, ou tout au moins c'est comme ça qu'il voit la chose, ils sont impressionnés de voir comment Jésus commande au vent et à la mer, mais cela leur permettrait-il de mieux faire face aux doutes la prochaine fois? N'eût-il pas mieux valu qu'ils soient moins impressionnés et plus confiants? On peut d'ailleurs se poser la question sur ce à quoi ils s'attendaient, à quoi s'attendaient-ils en recourant à Jésus. La question, maître, que ne t'inquiètes-tu donc pas de ce que nous périssions? Et à leur image, est-ce que nous n'interpellons pas Dieu dans nos prières tout en ne réalisant pas vraiment à qui nous les adressons, au point que, comme eux, nous pourrions être surpris par ces réponses? Nous sommes là au début du ministère de Jésus et très probablement nous les trouverions peut-être dans une attitude plus mature un peu plus tard. Mais Jésus dit aussi dans l'évangile de Jean, à moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, ne croirez-vous donc pas? À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, ne croirez-vous donc pas? Saurons-nous consolider notre foi avec les signes et les appuis que Dieu nous donne aujourd'hui, afin que notre foi reste ferme quand il nous les retirera? Si nous plaquons la définition de la foi que nous avons évoquée dans cet épître aux Hébreux, l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses que nous ne voyons pas, si nous plaquons cette définition sur la situation des disciples dans la barque au milieu de la tempête, on voit tout de suite à quelle épreuve ils ont à faire face et aussi quelle est leur marge de progrès. Si nous plaquons cette définition sur notre situation et notre projet d'Église, nous voyons tout de suite que nous n'échapperons probablement pas à des mises à l'épreuve qui nous mettront face à nos doutes. Et nous ferons, nous aussi, toucher du doigt nos marges de progrès. Alors, autant l'accepter, autant nous y préparer, afin de passer avec succès l'examen qui consacrera notre foi, qui consacrera la foi que nous aurons placée en notre Dieu. Je vous propose de chanter le cantique « À toi la gloire ».